Oui, le mérite pour un juif de croire. L'histoire a prouvé, c'est vrai, que quel que soit le déchaînement des forces hostiles, Israël est inassassinable. Ce que Dieu a dit à Israël dans la Bible, c'est vrai. Nous sommes les témoins 3600 ans après. Il n'y a pas à croire. Vous comprenez? Mais quand un goy croit en cela, c'est un mérite colossal. Et donc Rashi a raison. Ce verset pour Abraham, c'est ce que le christianisme dit. C'est la foi qu'il mérite. Mais il le dit pour les goïms. Alors l'Armanie n'intervient pour Israël et pour les juifs. Pour les juifs, tout à fait autre chose. Nous sommes après Moïse. Okay. Allez, vous voyez ce qu'il y a? Il n'y a absolument aucune contradiction. Simplement, Nahmani nous dit, Rashi a raison, mais il ne faut pas lire comme lui. Et Nahmani enseigne dans le climat des controverses judéo-chrétiennes. C'est lui qui nous a laissé l'expérience de cela, qui n'y a pas d'issue. C'est un dialogue de sourds. Et vous savez comment il a décidé pour lui. Et après les controverses judéo-chrétiennes, il a fait sa alia. Et c'est arrivé comme ça dans l'histoire. Vous savez que c'est lui qui a fondé la communauté séfarade de Jérusalem. Il y a 700 ans. Et alors, on a fait l'anniversaire il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'issue. Alors il a décroché. Maintenant, vous avez bien vu cette illustration du fait que c'était difficile pour Abraham de croire en cela. Et quand, en fin de compte, il y est arrivé, entre-temps, il y a eu des avortements. Entre-temps, il y a eu des catastrophes. Et vous comprenez mieux maintenant. Vous vous rappelez, à un des premiers cours, il y avait, je pense, un élève de l'école Yavne qui était complètement étonné qu'on puisse dire que Abraham ait pu hésiter. Comment Dieu t'a dit Isaac et tu... Vous voyez le piétisme schématique, n'est-ce pas? Tout simplement parce que on ne restitue pas l'épaisseur historique dans la durée de tout ce qu'on nous raconte. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je refuse cette espèce de piétisme intériorisé qui n'est que philosophique. La prophétie biblique parle de l'histoire qui se fait dans le monde de la réalité et pas du tout dans une espèce de catéchisme théologique d'un idéal intellectuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans la dimension de cette histoire d'Abraham, dans la dimension de durée de cette histoire d'Abraham, c'était difficile pour Abraham d'arriver en fin de compte à croire. Et lorsqu'il a cru, c'est un mérite colossal. Donc c'est bien Rashi qui a raison et Nahmani le sait. On lui dit, mais nous ne pouvons pas lire comme ça. Nous ne sommes pas Abraham. Nous sommes déjà Israël. Et pour Israël, le mérite de la foi, c'est une parmi les mitzvot. Mais le mérite, c'est de justifier la promesse par la conduite d'après les mitzvot. Nous ne sommes pas chrétiens, mais Abraham, s'il reste à ce niveau-là, eh bien, c'est la découverte que les chrétiens ont commencé à faire. Je parle des chrétiens de bonne foi. Le fait pour un goy de croire dans le Dieu d'Israël, ça mérite colossal. Moi, avec toute ma vie, quand j'étais jeune étudiant, que je rencontrais des étudiants de l'étranger, je me rappelle une longue conversation que j'ai eue avec un étudiant tchèque un jour, et puis je vois cet homme des Carpates, je ne sais pas si les Carpates c'est en Tchéquie, mais enfin, cet homme qui n'a rien à voir avec l'histoire de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et qui croit dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et qui rentre dans une église au centre de l'Europe, et puis qui adore le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est un mérite colossal, je ne sais pas si vous vous rendez compte. S'il n'y avait pas tout cet antisémitisme chrétien, il serait étonné de savoir à quel point on les aimerait, ces gens qui sont venus de si loin, pour croire dans ces choses inouïes qui sont nos histoires de famille. Et vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et c'est un mérite colossal. Qu'est-ce que c'est un chrétien de bonne foi? C'est un homme qui sort de la religion naturelle pour commencer à croire à des mystères. Mais il faut le faire. C'est ça le mérite d'Abraham. À des choses qu'il ne peut pas comprendre. Passer des secrets de famille juifs. C'est pourquoi les curés leur disent c'est des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils leur disent c'est des mystères? Il n'y a que les juifs qui peuvent comprendre. C'est un mystère, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la dernière phrase qu'il y a eu hier soir quand David Messas a dit il y a un mystère familial juifs et ceux qui sont pas dedans ne peuvent pas comprendre. Et que j'ai ajouté, ça veut dire que ceux qui comprennent sont dans le coup. Vous voyez le problème. Il fallait ajouter cela, il n'y a pas de doute. Et bien voilà, un exemple. Mais en tout cas, ça nous éclaire bien cela, je pense, à mon sens, c'est que, et c'est très important de le comprendre, il y a un mérite colossal pour Abraham d'être devenu Abraham, et ne croyez pas que c'est simple. Et quand un homme a cette expérience-là, c'est, comme dit Rashi, un très grand mérite. Et peut-être que, pour beaucoup d'hommes, ça suffit pour être sauvé, comme on dit en vocabulaire chrétien. Être capable de croire en cela.
Et de se cramponner à l'histoire d'Israël. De la collectivité d'Israël. Si on me demande, et on me demande souvent, qu'est-ce que c'est que la foi juive ? C'est de croire en quoi ? Et j'ai toujours tendance à répondre comme ça. C'est de croire en l'histoire du peuple. Maintenant, vous voulez parler de Dieu, ça c'est de la théologie, il faut être spécialiste. Vous comprenez ? La réponse est celle-là.
Et quelle est la foi juive ? C'est de croire en l'histoire des Juifs. Et c'est en cela que croient les goïms, quand ils croient dans l'histoire d'Israël, ils croient dans l'histoire juive. Qu'ils crucifient, qu'ils mythifient, mais vous comprenez bien que c'est bien ça dont il s'agit. Et vous comprenez pourquoi je peux dire qu'un analphabète Yehoshua est beaucoup plus dans le coup avec son athéisme théologique, parce qu'il est dans l'histoire juive. Il est dans la Bible. Hein? Et puis, pourquoi il dit qu'il ne croit pas? Eh bien, parce qu'un juif, c'est aussi coquet. Vous savez, la coquette. Mais il le sait, parce qu'il ne croit pas. C'est ça le fond des choses. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Non, j'ai dit que nous sommes déjà dans le temps du troisième. Écoutez, il y a eu l'histoire de la première maison d'Israël, Beit Rishon, détruite par la civilisation de Babel. Il y a eu la deuxième histoire de la maison d'Israël, détruite par la civilisation romaine. Nous sommes en train de construire la troisième maison d'Israël, tout simplement. Il faut ouvrir les yeux et savoir que c'est raconté dans les journaux. D'accord. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes au temps de Beit Shlishi. J'ai pas dit Beth Amikdash, ça viendra, okay? Il y a des étapes. Mais Beth Israël, la troisième maison d'Israël, est en train d'être construite. Et vous connaissez cette phrase de la prière que nous avons lue pendant 2000 ans en pensant à un désert de cailloux. Bonne Yerushalayim Hashem. Dieu est constructeur de Jérusalem. Allez faire un petit tour là-bas, vous allez voir qu'elle est construite. Alors qui l'a construite? C'est Dieu, d'après la foi juive. Sauver le bonnet, c'est ça, bonnet Yerushalayim. Okay. Non, mais ne croyez pas que je blague. D'accord? Je vous parle en hébreu. Okay. C'est grave? Non. Dans Soleil, il n'y a pas elle, il n'y a pas le Aleph. C'est l'islol. Ça veut dire aplanir le chemin. Solou. Okay. Messila, quel? Okay. Vous avez bien compris cela. Et vous avez un très long maharal, d'ailleurs, sur ce texte. Je vous cherche la référence tout de suite. C'est dans... c'est dans la Mishnah de Asara Nisyonot Nasa Abraham Avin. Dans la Mishnah des Pirkei Avot du chapitre 5 sur les 10 épreuves d'Abraham. Et où il explique cela. C'est que l'histoire du premier temple correspond à l'histoire d'Abraham. L'histoire du deuxième temple correspond à l'histoire d'Isaac. Et l'histoire du troisième temple correspond à l'histoire de Jacob. C'est la fin de l'exil présent. Et nous sommes en train de le construire. Seulement, comme vous savez, il faut 9 mois pour faire un enfant. Mais je vais vous rassurer, les plans existent, les pierres ont été déjà achetées. Et alors, il faut laisser quand même quelque chose à faire au bon Dieu. Ça, c'est son travail. Quand ça arrivera, vous direz, comme on s'est dit, 1000 fois dans notre temps. Ah, c'était comme ça que ça devait arriver. On verra bien. Ah, il ne faudrait pas être trop gourmand. Vous savez, il y a même un fonds juif international secret pour payer les ouvriers. C'est-à-dire, tout est prêt. C'est rare, si vous voulez, mais c'est un fonds sérieux. Là, il faut verser des sommes sérieuses. Non, non, parce qu'on gravera les noms des constructeurs. Je suis en train de vous séduire, hein. Allez, vite, Macbeth, collecte, Betamida. Il n'est pas important. Vous savez, qui a construit le temple de Salomon? Des Libanais. C'est que ça qu'on dit, Libanais à Migdash. Ertzion, Tibanais. Moi, ça m'époustouffe quand je vois les touristes arriver, ils ne se rendent pas compte que Jérusalem est en train de se construire. On se demande sur quelle planète on vit. Alors donc, elle est en train de se construire. Ah ben, c'est clair. Il y a les juifs soutaniques, pour ne pas dire sataniques, qui disent que c'est le Satan qui l'a construit. Bon, c'est leur affaire. Il vaut mieux être en bonne santé. Oui, qu'est-ce qui est une autre question? Non?
Tiens.
Moi, je considère que c'est une interprétation christianisante et qu'il y a contradiction.
Stouki, maman.
J'ai pas dit ça. C'est pas moi qui choisis ce sujet. C'est David Messa. Je considère que ce qui a été dit sur la question, comme ça a été dit, c'est christianisant et sadducéen. Comme je voulais pas intervenir hier soir dans le Kahal, j'ai arrêté la discussion. Vous avez bien compris parce qu'elle était dans une impasse. Je vais vous faire une promesse. Une promesse dangereuse. Je vais mettre ça par écrit. Comme ça, vous pourrez le lire attentivement. Pourquoi une promesse dangereuse? Parce que moi, écrire... je voudrais mettre par écrit, parce que je crois que c'est important, le sujet de la séance de mercredi soir sur la crucifixion, et je ferai un paragraphe sur la thèse du Rav Dessler. Vous savez, il faut avoir le temps, simplement, de le mettre par écrit, mais il faut avoir le temps, quoi. Et alors là, vous lirez ça attentivement. Faites bien attention à ça. Il y a une hiérarchie de l'autorité dans une tradition. Okay? Un contemporain, si un contemporain dit quelque chose qui contredit ce qu'un des grands maîtres de notre histoire a dit, c'est qu'il a des problèmes avec lui. C'est pas avec moi que le Rav Dessler a des problèmes. Moi, j'ai pas de problème avec le Rav Dessler. Le Rav Dessler a des problèmes avec Rashi. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire. Mais je vous ai donné un exemple ici de controverse entre Nachmanide et Rashi. Okay? Mais il s'agit de Nachmanide et Rashi. Et pour vous montrer que, contrairement à ce qu'a dit David Messas, entre Nachmanide et Maïmonide d'autre part, il n'y a pas de contradiction. Il faut comprendre ce que l'un et l'autre dit et de quoi ils parlent. C'est clair? Maintenant, s'il y a une contradiction avec un texte, comme par exemple celui du Mirfa Melia ou de Rav Dessler, c'est que ce n'est pas un texte. Vous comprenez? On ne peut pas mettre sur le même plan un texte contemporain fût d'un homme pieux et Rashi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'autant plus que la contradiction est avec la Bible elle-même. Il n'est pas écrit que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Un point. Et David Messas lui-même l'a reconnu, que ce n'est pas écrit. C'est la raison pour laquelle il est intervenu en disant il ne faut pas lire sans la tradition. Mais c'est à lui qui doit dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est clair. Non, je voudrais vous rassurer, c'est pas un problème important. C'est pas un problème important, vous savez, il y a aussi des cardinaux qui croient dans la Bible. Et vous croyez que je vais admettre ce qu'un cardinal a dit sur la Bible? Rashi, ça passe avant. Il ne suffit pas d'être pieux pour savoir ce qu'on dit. Et un cardinal, c'est très pieux. Okay.
Rav Talmid,
Ken.
Alors, chez les éducateurs, on dit que c'est le père qui veut dire qui apprend à son enfant la Torah, qui est le maître. Alors,
Oui, l'idéal, c'est quand c'est le père qui est le maître. C'est une très bonne question. Mais en tant que père, il est père, et en tant que maître, il est maître. Vous comprenez? En tant que père, il fabrique mon identité, qui est le véhicule de mon âme, et en tant que maître, il dit à mon âme ce que son âme a à lui dire. Mais il faut avoir un corps pour avoir une âme. Donc le père, c'est très important. Et après vient le maître. L'idéal, c'est quand c'est le père qui est le maître. Vous voyez, les fils des pères qui sont des maîtres ont beaucoup de chance, on n'a aucune idée. Mais il faut le faire, ça, c'est pas donné. Hein. La Torah n'est pas donnée en héritage. Bien, je voudrais vous proposer de terminer maintenant, enfin 5 minutes, je vais terminer sur un chidouche, que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu. Quel? Sur une question de méthode. Oui, je vous écoute.
Oui. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce que Dieu a demandé à Isaac, ce n'était pas de l'éprouver à l'échelle de sa foi?
Abraham,
ce n'était pas de l'éprouver à l'échelle de sa foi. Je dirais que c'est une idée. Sinon, de démontrer qu'il a abandonné le Moloch.
Écoutez, écoutez, ce que vous dites est tellement évident pour nous que ce n'était même pas la peine de le souligner. Ça va de soi que c'est ce texte qui fonde le refus des attributions. C'est tellement évident qu'il n'y avait même pas de le citer. On est obligé de le citer à cause du Waldesler. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je voulais expliquer, en tout cas, on est en petit comité, je voulais expliquer la réaction de la Beth Yoshua. Et à quel point c'est l'exposé du Rav Dessler qui justifie la réaction de la Beth Yoshua. S'il faut croire en ça, on ne croit pas. Vous comprenez? Quelle est la fond des choses? Et vous avez à la Beth Yoshua un peu de grossièreté juive, mais une bonne santé hébraïque, c'est un hébreu qui parle. À ça, je ne crois pas. La bim de Slerim de la création. Voilà, d'autant plus que ce n'est pas écrit. Lo alta libi, dit Jérémie. Jérémie a eu à lutter contre les Hébreux paganisants de son époque qui croyaient que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Ce que vous dites, ça va tellement de soi pour un élève de Talmud Torah qu'il faut même pas le dire, qu'il n'y avait même pas à le dire. C'est là qu'est fondé le refus des sacrifices. Et c'est la leçon que Dieu donne à Abraham. Tu ne vas pas m'adorer comme tes collègues. C'est tout. Je ne suis pas comme mes collègues. Je ne suis pas un faux dieu. Bien, écoutez, je voulais plonger sur une question. Et pour vous engager à cela, nous sommes dans un temps de l'arrêt de la prophétie depuis 2500 ans. Et nous lisons les textes des prophètes. Il y a donc une tradition qui passe par la mémoire et non pas par la raison. Par l'exercice de la raison, qui nous fait comprendre ces textes. Et méfiez-vous de la projection de la méthode philosophique dans l'exégèse biblique. Ça, c'est le sadducéisme. Ça, c'est du Christ. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais vous montrer un petit chidouche qui concerne la naissance de Moïse. Et vous savez comment les philosophes eux-mêmes ont défini la méthode philosophique, la maïeutique. Qu'est-ce que la maïeutique? C'est le maître qui accouche de l'esprit de l'élève. Et j'ai fait des études de philosophie, je ne suis pas philosophe, enfin j'ai fait des études de philosophie, et je crois pouvoir vous dire qu'il y a là en réalité de la part de Socrate un procédé pédagogique, un humour pédagogique. On fait semblant que la réponse est venue de celui qui a posé la question. Mais en réalité, c'est, vous vous rappelez, dans la maïeutique, les dialogues de Platon, c'est bien évidemment le maître qui fait dire à l'enfant ce qu'il a voulu lui faire dire, en fin de compte. Mais il faut qu'il ait l'impression, l'expérience que c'est lui qui l'a dit. Je crois que c'est de la pédagogie. Bon, mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Donc, pourquoi? Parce que si c'est l'enfant qui a posé la question qui donne la réponse, alors c'est la dérision, vous comprenez? C'est moi qui ne sais pas qui veut dire ce qu'il faut savoir. Okay. Est-ce que c'est bien clair? Mais je vous donne un exemple dans un tout autre domaine, en sociologie du travail. Un patron intelligent, lorsqu'il sent qu'il doit augmenter ses ouvriers, doit attendre qu'il le réclame et qu'il l'arrache. Il faut que l'ouvrier ait l'impression d'avoir conquis cela, alors que ça lui est déjà donné à l'avance. Alors on le laisse faire quelques heures de grève pour que ça s'arrange, etc. Je parle d'un patron intelligent. Le marché du travail est arrivé à un point tel qu'il faut augmenter les ouvriers. Et alors, on attend que le délégué syndical commence à crier. Et dès qu'il crie comme il faut, on lui donne ce qu'il veut, parce qu'il y a droit. Mais on ne peut pas le donner à l'avance, il faut que ça soit...
Le dialogue d'apprentissage.
Oui, exactement. Vous voyez pourquoi c'est parallèle. Il faut, pour que l'élève comprenne, il faut qu'il ait l'expérience que lui a dit. Mais c'est le verge qui lui a fait dire. Je pense que c'est clair. Ne vous trompez pas. Alors, ne tombez pas dans ce piège de la maïeutique. En réalité, la méthode traditionnelle est exactement l'inverse. C'est l'élève qui accouche de l'esprit du maître. Alors là, on est rassuré, parce que c'est le maître qui répond, avec sa mémoire. Vous comprenez le problème? Je pense que c'est clair. Alors voilà le chidouche que je voulais vous donner, c'est ceci. Et la sage-femme, ça se dit Mialene. Et l'élève, ça se dit Talmud. Et c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est le Talmud qui est l'ami à la vie. C'est pas le tout. C'est joli, hein?
Okay.
C'est tout le contraire. C'est le Talmud qui accouche de l'esprit du maître. C'est le Talmud qui est l'ami à la vie, qui est la sage-femme. Bon. Ben, je crois que je vais remercier tous mes sages-femmes de cette semaine. Et veillez bien sur l'enfant. Hein. Ça le fait. Alors, Shabbat Shalom, et en juillet, nous aurons, je vais vous dire si vous voulez, en juillet, début juillet, si tout va bien, si tu veux, je voudrais vous expliquer quel sera le thème du séminaire. Dans les cours du matin, le thème général du séminaire, c'est les thèmes existentiels dans la tradition juive, dans la Bible, dans le Talmud, dans la théologie du Moyen-Âge et chez les contemporains. Je pense que ce sera un séminaire assez riche, d'ailleurs. Mais le matin, je vous propose qu'on étudie le Midrash Rabba sur Shir HaShirim, sur le Cantique des Cantiques. Est-ce que ça vous va?
Oui.
Très bien.